Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
20h20, stade Montpellier-la-Paillade. Monsieur le maire et son épouse arrivent pour soutenir leur équipe contre Angers. Une venue sportive ou politique? Avec la proximité des municipales, les tribunes d'un stade peuvent parfois prendre les allures d'une publicité électorale.
Monsieur le maire, qui arpente les coursives et les tribunes du stade de football de sa ville, un classique de la vie politique locale. Mais à quand remonte cette histoire entre le sport et la politique municipale? A priori, on serait tenté de dire qu'en France, c'est un phénomène assez récent, un demi-siècle tout au plus. Or, en réalité, c'est un lien très ancien et passionnant qui s'est noué à l'aube du XXe siècle. Au programme ce soir donc, deux invités au micro d'Inter pour nous raconter ces liens qui unissent le sport et les mairies en France. Une recherche inédite menée par un historien de l'Université du Mans que nous accueillons à notre table. Philippe Tétard, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Je précise le titre de votre livre, Les Édiles au stade, aux presses universitaires de Rennes. À vos côtés, un autre historien du sport. Il enseigne à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, un spécialiste entre autres du football. Paul Vietchi, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, Yvette Horner, égérie populaire du Tour de France. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, Monsieur le maire, l'athlète et la belle époque.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, nous débutons dorénavant cette émission par la minute musculaire de Robert Reynaud, sémillant professeur de gymnastique qui sévissait sur les ondes de l'ORTF dans les années 50. Le sport à la maison pour les auditeurs et les auditrices. Ce soir, le professeur Robert Reynaud vous propose de travailler votre double menton. Vous allez faire le signe, hein, comprenez, le palmipède aux 24 vertèbres cervicales.
Êtes-vous prêt? Alors vous allez imiter le signe qui se rengorge. Vous savez, en serrant le bec sur son cou, c'est d'ailleurs très joli. Et pour mieux imiter le signe, vous vous asseyez. Pliez les jambes un peu, si vous le voulez. Laissez les pieds bien à plat sur le sol, en avant. Les genoux serrés. Posez même les mains sur les genoux, tenez. Et voici le mouvement du cou du signe. Vous serrez, vous, le menton sur le cou, par le bec, bien entendu, le menton. Et vous forcez en arrière. Vous avez un mouvement de retrait, par conséquent, de la tête. Vous redressez toute la colonne cervicale et en même temps, vous redressez le dos. Alors serrez très fort, le menton sur le cou, portez bien la tête en arrière, restez là, forcez, puis vous revenez en avant et vous recommencez. À nouveau, vous portez la tête en arrière, vous serrez bien le menton sur le cou, vous forcez, serrez très fort, décontractez-vous, revenez en avant, recommencez, serrez le menton sur le cou, portez la tête en arrière, vous forcez, là bien, et vous revenez en avant, en arrière la tête encore. Serrez bien le menton sur le cou, faites le double menton, forcez. Et puis vous vous décontractez, et c'est fini.
Et oui, c'est fini. Merci au professeur Robert Reynaud. Après le signe, c'est l'heure des élus municipaux. Voici l'histoire du dimanche soir. Avec son embonpoint, ses costumes trois pièces, sa montre à gousset, ses chemises en popeline, sa moustache broussailleuse, Édouard Herriot incarne à merveille l'homme politique de la Troisième République. Il fut maire de Lyon pendant 50 ans, président du Conseil des ministres à trois reprises entre 1925 et 1932, et il préféra s'abstenir lors du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, avant de devenir un sage républicain après la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il décède en 1957, Édouard Herriot, incarnation d'une France des régions, a le droit à des obsèques nationales.
La mort d'Édouard Herriot cause un grand vide dans la vie politique française. À l'hôtel de ville de Lyon, dont il était maire depuis 1905, la population est venue lui apporter en foule son dernier hommage. Des milliers de personnes ont défilé devant le corps de celui qui fut à la fois un administrateur à qui Lyon doit beaucoup et un politique qui porta quelquefois les destins de la France. C'est pour cet homme dont le talent fut divers et la conscience intangible que la République a voulu des obsèques nationales. À travers les rues de Lyon, un long cortège a conduit au milieu d'une foule compacte les restes de celui dont le président René Coty a pu dire « La République perd avec lui l'un des plus grands citoyens de son histoire ». Les pouvoirs publics, l'université, l'académie étaient présents autour de son cercueil. La carrière d'Édouard Herriot, qui débuta comme professeur, l'avait mené en effet aussi bien à l'Institut qu'au plus haut poste de l'État. C'est cette dernière carrière que devait retracer sur la place Bellecour, devant le président Coty, Madame Herriot et les plus hautes personnalités de l'État, le président du Conseil, M. Guimollet, en lui disant en ces termes un dernier adieu. Nous serons fidèles aux paroles qu'Édouard Herriot prononçait un jour. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants.
Alors, que vient faire Édouard Herriot dans une émission consacrée à l'histoire du sport? Paul Dicci, Herriot, personnage central de la Troisième République, mais il est aussi une figure essentielle dans l'histoire du sport en France. Pour quelle raison, Paul?
Alors, c'est une figure essentielle parce que c'est l'un des premiers maires que les historiens ont identifié comme bâtisseur de stades et comme un maire qui aurait mené une politique sportive municipale à Lyon. Et cela très tôt, puisque c'est vrai, Herriot est l'initiateur de la construction du stade de Gerland, qui commence à peu près vers 1912, qui est ralenti par la guerre et puis qui s'achève entre 1923 et 1926. Donc un très grand stade pour la France de l'époque.
Qui a été longtemps le stade de l'Olympique lyonnais, pour ceux qui aiment
voilà,
le football.
Puisque les Lyonnais espéraient en 1912 accueillir les Jeux futurs. Herriot avait notamment cette maxime, il disait « Construire un hôpital, c'est de l'assistance. Construire un stade, c'est de la prévoyance. » Alors, comme on l'a rappelé, bon, il n'avait pas un physique d'athlète, mais en tout cas, il avait comme politique principale celle de vouloir développer une pratique de masse. Un sport et une gymnastique qui permettraient donc de renforcer les corps, d'être finalement un moyen d'avoir une meilleure santé de la jeune population lyonnaise. Beaucoup plus, et c'est d'ailleurs un petit peu le paradoxe du stade de Gerland, beaucoup plus que de créer un stade pour le sport-spectacle professionnel. Et de fait, Lyon va mettre beaucoup de temps pour devenir une place forte du football, une place forte du football professionnel.
Philippe Tétard, vous avez dirigé avec Sylvain Villaret un ouvrage passionnant, qui est un livre d'histoire, quoi, si on en livre aussi un de spécialiste, qui est donc aux presses universitaires de Rennes, donc les édiles au stade, ça c'est le titre, sous-titre aux origines des politiques sportives municipales vers 1850-1914. Voilà une recherche inédite et passionnante, et pourquoi avons-nous commencé par Édouard Herriot, Philippe Tétard? Parce qu'on le croise à de nombreuses reprises dans cette enquête. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce livre?
Ce qu'on voulait, c'était tenter d'observer si, avant qu'on nomme usuellement la naissance des politiques sportives, on la place usuellement au milieu des années 20. Voilà. Il s'agissait d'observer si des signes avant-coureurs, voire des signes tout à fait tangibles, prononcés, permettaient de parler de politique des sports à l'échelle municipale avant la Grande Guerre. Dans un certain nombre de cas étudiés, on peut effectivement parler d'une politique sportive, pas au sens contemporain du terme, c'est-à-dire pas une politique avec un service spécialisé, une administration spécialisée, un budget dédié. Le budget sportif municipal est généralement tiré jusqu'en 14, de la ligne budgétaire des fêtes, de l'éducation, de la santé, mais n'existe pas en propre, par exemple à Paris. Voilà, donc c'était ça, on voulait sonder.
Mais ce qui surgit très vite, parce qu'à la fois il y a une étude parisienne et une étude vraiment régionale, hein, vous êtes appuyé sur beaucoup d'études, il y a Carpentras, Saint-Étienne, Toulouse, on est partout en France. On voit en effet, bien avant la guerre de 14, un souci des municipalités françaises à l'égard du sport.
Il y a un réel souci. Alors, on ne peut pas résumer ici, ça n'est pas notre propos, l'ensemble de ce que ce livre contient. Mais disons qu'il y a un souci qui est particulièrement lié au souci qu'ont les élus de faire rayonner leur ville. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entendre cette mobilisation très précoce des élus autour du sport comme le signe de leur volonté d'encadrer la population à des fins prévisionnelles ou de prévoyance, comme pouvait le dire Herriot, mais plutôt à des fins proprement politiques visant à permettre à des villes comme Vichy, comme Angers, comme Toulouse, de se faire valoir dans la vitrine nationale et de s'y faire valoir par le biais du sport.
Alors là, il y a se faire valoir par le biais du sport, mais Paul Dicci, il y a aussi ce qu'on appelle le sport patriotique, c'est-à-dire que Sedan n'est pas si loin, la défaite de Sedan, il faut construire un corps du soldat. Et la mairie française, la municipalité, est aussi concernée. Elle est le relais entre l'État et le citoyen. Et donc, il y a aussi là, dans un souci de fortifier la nation, un souci du sport chez le maire de toutes les provinces de France.
Oui, alors le souci patriotique, il est particulièrement fort dans les années 1870-1880. Et le livre, enfin, je dirais tout de suite que c'est un très bon livre.
Hein, un vraiment, excellent livre.
Très bon ou excellent, pour moi, c'est la même chose. Et surtout qu'il permet de relire totalement l'histoire du sport en France. Pour quelle raison? C'est que ce souci patriotique, donc, il apparaît après ce temps, mais auparavant, il y a déjà un sport qui se développe. Et l'exemple du Paris Cricket Club, qui est le premier article, est tout à fait passionnant. Et en fait, la défaite met fin à ce sport qui commence à se développer avec l'importation de pratiques anglaises. Et puis ensuite, vous avez à peu près deux décennies, finalement, qui sont extrêmement patriotiques. Et à la Belle Époque, les choses sont complexes. Donc, ce que montre bien le livre aussi, c'est que les municipalités commencent à être obligées de composer hein, entre les sociétés de gymnastique, qui d'ailleurs sont parfois sportives, hein, qui font un peu de tout, et puis les milieux sportifs. Et notamment, il me semble que le livre identifie un moment, c'est 1905, où il y a justement les mairies qui identifient finalement les activités sportives comme distinctes des activités de gymnastique, et donc d'activités patriotiques qui visent avant tout à former le soldat. Alors que le sport, c'est d'abord le divertissement,
le loisir,
le plein air, et donc c'est sur un autre registre, hein, tout à fait.
Philippe Létard, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, qui surgit dans l'étude, c'est la jeunesse de la République. Il y a un idéal républicain auquel il faut faire adhérer les populations diverses et variées des régions de France. Et là où on peut replacer Édouard Herriot, c'est que en effet, il y a une dimension... Vous savez, c'est comme vous en parlez dans les fêtes royales, c'est que tout d'un coup, il faut légitimer la République par des fêtes sportives. Donc il y a des courses cyclistes, il y a des rendez-vous d'aviation, il y a des courses hippiques. Mais tout ça est aussi mis en place par les mairies de la Troisième pour créer une adhésion de la France à ce nouveau régime.
Oui, je pense par exemple au meeting aéronautique qui constitue sans doute le sommet de ces rendez-vous sportifs.
Qui à l'époque était très populaire.
Hein, très populaire.
Roland Garros, on en parlera dans 15 jours par exemple. Roland Garros était une des grandes vedettes sportives parce qu'aviateur.
Et d'ailleurs, l'aéronautique était considérée de façon très ambivalente comme quelque chose qui relevait du sport et de l'art et de la maîtrise militaire. On trouve des informations aéronautiques dans les journaux, aussi bien dans les rubriques militaires que dans les rubriques sportives. Mais bon, oui, cet apparat républicain, oui, il s'enrichit de ce moment sportif, mais aussi sans doute, mais ça c'est difficile à percer à jour, pour des raisons qui tiennent aux enjeux électoralistes. C'est-à-dire que les maires doivent prendre la mesure à la Belle Époque et plus encore dans l'entre-deux-guerres de ce fait que leurs électeurs apprécient les choses sportives, parce que le sport se décline au pluriel, les sports, et que donc il convient de mettre en œuvre, de ce point de vue-là, une politique très volontariste.
Paul Litchi, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Létard, est-ce qu'en effet on peut affirmer, est-ce qu'on peut dire à l'aune de cette étude que dès l'avant-guerre, l'avant-première guerre mondiale, c'est un enjeu électoral? Est-ce que le sport, alors qu'on pense que c'est un phénomène récent en France, le sport est politique, or j'ai l'impression qu'en lisant le livre de Philippe Létard, enfin avec ses chercheurs autour de lui, qu'on peut parler d'un intérêt électoral à l'égard du sport pour les maires de France?
Oui, pour quelle raison? C'est que on a une vision d'un sport qui ne décollerait qu'à la fin de la première guerre mondiale. Or, cette vision est totalement fausse. Et le livre le montre bien, c'est qu'il y a une vraie acculturation au sport, il y a une vraie, on pourrait dire presque une civilisation du sport.
Un phénomène culturel.
Oui, avant 1914, alors qu'il repose pas, on l'identifie moins bien, parce qu'il y a des sports, par exemple, comme le football association, qui sont au cœur de notre culture sportive, qui sont plus périphériques. Et c'est vrai, il y a l'aéronautique, l'automobilisme, et puis évidemment le cyclisme, hein, qui est la grande culture entre autres, et c'est pour cette raison évidemment que les maires s'intéressent au sport. C'est parce que c'est une vraie passion nationale. Bon, le vélo évidemment est le premier moyen de locomotion, mais c'est aussi le premier moyen aussi de faire du sport. Cette politique édilistique, ça passe souvent par les vélodromes. Hein, il y a un très bon article sur la Cipale à Vincennes.
Cipale. Alors racontons ce que c'est que la Cipale, qui existe encore. Il y a encore cet anneau qu'on peut le prendre à Vincennes. Hein. Donc, c'est la Cipale. J'imagine c'est la municipale. J'imagine, j'en sais rien.
Exact.
La Cipale, c'est donc une grande piste de cyclisme créée à Vincennes.
Oui,
c'est quoi le contexte?
La Cipale, en fait, c'est la réponse de la mairie aux initiatives privées, parce que Paris, à l'époque, voit se lever de grands vélodromes qui sont d'ailleurs des espaces dans lesquels il se passe tout un tas d'autres choses que du cyclisme. Hein. Il faut le noter, que ce soit Buffalo, le Parc des Princes, etc. Et donc, il y a une demande dont le conseil municipal s'empare et au terme de 2 ou 3 années de discussion, on construit ce vélodrome qui est dédié à la pratique cycliste pour les Parisiens bien plus qu'à la compétition elle-même. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que tout à l'heure, on soulignait avec Paul le souci d'affichage politique, parce qu'il y a quand même, malgré tout, le souci chez les maires de satisfaire ceux qui ont, par exemple, envie de jouer au football ou de faire, de s'adonner au cyclisme avec des degrés de compétences divers. Voilà, donc cette piste municipale est inaugurée en 1895 et il en reste,
évidemment, la trace vivante. Et on peut encore la prendre aujourd'hui, je l'ai pris il y a quelques mois pour tout vous dire. Paul, Philippe, qui répond à la question, c'est une période forte en opposition politique, hein, le début du XXe siècle, il y a aussi tout d'un coup une sorte de séparation de l'Église et de l'État, par exemple. Donc il y a des positions fortes entre la gauche et la droite. Donc si on reprend l'échiquier politique, est-ce que surgit des manières d'appréhender cette politique municipale en fonction qu'on soit de gauche ou de droite ? Paul, Philippe, qui répond ?
Alors, ça dépend un peu de l'échiquier politique de l'époque. Mm-hmm. Si on prend la gauche, c'est-à-dire la SFIO, mm-hmm. une partie de la SFIO, pendant très longtemps, juste envers 1910-1912, ils sont très anti-sport. Hein. Pour quelle raison ? C'est que pour eux, le sport, c'est un moyen utilisé par les patrons pour détourner les ouvriers, évidemment, de leur but de revendication et de révolution. Et donc, c'est vers 1910, je pense, Philippe me contredira peut-être, que la première rubrique sportive apparaît dans l'Humanité. Donc, c'est assez tardivement. En revanche, les radicaux sont plutôt sportifs.
Et Rio est radical.
Ouais, l'image de
Édouard Rio est parti radical.
Pour quelle raison ? C'est qu'il y a à la fois, alors dans le Sud-Ouest, ça peut faire partie évidemment du radical socialisme et de la volonté de contenter tout le monde sous une forme un peu clientéliste, mais il y a aussi très largement quand même cette idée que l'exercice physique, ça permet évidemment d'éduquer et ça permet d'améliorer la santé, une préoccupation importante, hein, l'hygiène à
une
cette époque-là.
Une préoccupation à l'époque.
Tout à fait. Mmh. Et puis ensuite, alors il y a un point de rencontre, évidemment, entre les milieux catholiques, hein, qui, avec la création de la Fédération des patronages de France, hein, en 1903, portent le fer, hein, dans le champ sportif, et certaines municipalités radicales qui veulent éviter, évidemment, que le cléricalisme envahisse le stade. Donc oui, il peut y avoir quelques frictions, mais qui sont pas quand même une véritable guerre de religion.
Philippe Tétard, un mot sur cette politisation de l'enjeu municipal et du sport.
La traduction, parmi plein d'exemples, hein, des conflits qui peuvent apparaître, c'est l'opposition qu'on rencontre à l'échelle d'une ville, en l'occurrence à Bègles, entre les patronages catholiques et les patronages, je vais les qualifier d'anticléricaux, qui se mènent une guerre en essayant d'obtenir des positions dans les quartiers de la ville, en fonction de la couleur politique des quartiers, de l'origine sociale des habitants, etc. etc., de manière à marquer de leur empreinte le territoire et, ce faisant, gagner éventuellement la possibilité d'aller vers une victoire lors des municipales. Donc, l'enjeu n'aboutit pas à des guerres de rue. Néanmoins, il y a là quelque chose qui mobilise les politiques, les idéologies, qui crée de puissants effets de concurrence.
Prenons un cas d'étude de l'ouvrage que je trouve vraiment intéressant, c'est « Le Creusot ». Monceau-les-Mines. Deux exemples qui marchent très très bien. Donc le Creusot, il y a la famille Schneider qui, à travers la mairie, veut contrôler ses intérêts économiques. Donc on va développer une politique sportive pour aussi contrôler ses ouvriers. Et alors qu'à Monceau-les-Mines, c'est tout à fait opposé comme démarche. On peut résumer ça rapidement, Philippe Tétard ?
Mais dans un cas comme dans l'autre, le rôle des industriels est quand même absolument central. Alors dans un cas, les industriels et tout à la fois politiques dominent totalement la mise en œuvre des politiques sportives et domine les pratiques sportives. Et puis dans le second cas, il y a une prise de pouvoir par la base, si je puis dire, par les ouvriers, qui aboutit à une transformation d'un schéma qui au départ est assez ressemblant dans les deux villes. Mais à la vérité, les situations sont très très variables d'une ville à l'autre. Ce qu'on observe à Toulouse n'est pas le duplicata.
C'est décousu.
Voilà, c'est très décousu. Voilà. Ce qui apparaît clairement, c'est le souci du sport qui gagne les conseils municipaux.
Allez, on va continuer à parler de ces origines des politiques sportives municipales. Pour l'instant, on va faire une pause musicale, comme un été sans fin. Voici le combo The Liminianas et Nouria, le titre joué Calentita.
C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
Nu sur la plage.
Chipirones.
Je joue du sitar.
Bocadillos.
Je sais.
Mejillones.
Tu es accablé.
calamares, chipirones, bocadillos.
Tu répètes sans cesse
mejillones,
les mêmes mots.
Beba Fanta, chupa chups. Beba Fanta, chupa chups.
Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
Beba Fanta.
Mais tu ne le sais pas.
Chupa chups. Pan casero. Motifarra. Higo chumbo.
Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
Sobrasada. Pan casero. Motifarra. Higo chumbo.
Je n'utilise mon peigne.
Sobrasada.
Qu'une seule fois.
Calentita. Pollo frito.
Puis je le lance sur toi.
Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
Tu ne le ramasses pas.
Pollo frito.
Tu dis.
Vino tinto. Jamoncito.
Tu es accablé.
Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
Un hippie qui s'approchait, tu as souri. Et tu lui as dit
marijuana, 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 marijuana. Marihuana, marihuana.
L'œil du tigre.
La municipalité de Vienne était hier à l'honneur et à travers elle, tous les sportifs de la localité.
Philippe Collin.
Elle recevait le challenge de la municipalité la plus sportive de France. Et c'est monsieur Werleminger, de notre confrère L'Équipe, qui remettait le document honorifique à monsieur le maire Chapuis. Vienne, avec ses 23 sociétés sportives et ses 3000 licenciés, méritait largement ce titre décerné annuellement à la ville la plus sportive de France.
Sur France Inter. Vienne, ville élue la plus sportive de France en 1968. Une vitrine nationale pour la municipalité où comment le sport est vu comme une manière de se faire valoir. Une pratique ancienne qui remonte aux origines des politiques sportives municipales au début du XXe siècle, titre de cette enquête historique que nous explorons ce soir. Donc, dès la Belle Époque, les maires de France ont saisi l'enjeu de communication que pouvait générer le sport et au fil du temps, ils ont investi dans les structures et les clubs, à l'image de Jacques Chaban-Delmas dans sa ville de Bordeaux en 1964.
En réalité, le football professionnel, son existence, peut poser une question. Voilà une ville, Bordeaux, qui a un très grand stade, équipé pour les nocturnes maintenant, une équipe de dirigeants remarquable, une bonne équipe de football, très bonne équipe, une municipalité, je me permets de le dire, compréhensive, et malgré cela, il y a des problèmes financiers qui se posent. Dans toute la France, d'ailleurs, ça se passe ainsi. C'est toujours l'économie régionale qui soutient principalement l'équipe professionnelle de football, ou bien la structure régionale économique nationalisée dans certaines régions, ou bien le plus souvent, les forces économiques privées. La renaissance d'une ville présente une unité profonde. Il faut aussi bien avoir une grande équipe de football qu'un grand théâtre fonctionnant bien, que des usines qui tournent ou que des champs dans lesquels on travaille.
Alors, ce soir, après Édouard Herriot, voici Jacques
Chaban-Delmas dans cette émission consacrée à l'histoire du sport, ça me passionne. Philippe Tétard, vous êtes l'auteur avec Sylvain Villaret et de nombreux auteurs historiques autour de vous, d'une enquête consacrée aux édiles donc les maires, les édiles au stade, aux origines des politiques sportives municipales. J'aimerais, pour faire écho finalement à Jacques Chaban-Delmas, qu'on prenne le temps, quelques secondes, de décrire la photo qui illustre ce livre de recherche. On pourrait presque imaginer que c'est une sorte de proto-Chaban-Delmas sur cette... Alors, racontons la photo déjà pour commencer.
Alors, la photo, c'est un stade assez largement entouré de spectateurs avec deux
stade
joueurs
de football.
Deux joueurs de football. L'un d'entre eux a l'air un petit peu dépité, surpris par ce qui est en train de se passer, puisque le vice-président du conseil municipal de Maison-Alfort, au printemps 1914, donne le coup d'envoi d'un match France-Angleterre.
Et, il est en costume frac, chapeau haute forme,
voilà, enfin, exactement.
Un trois quarts. Voilà.
Et il frappe le ballon, d'ailleurs, quand on observe, il semblerait de l'intérieur du pied, a-t-il lui-même
c'est
joué,
ce que je me suis dit.
Tâté de la balle.
Parce que là, on voit qu'il a le geste du footballeur.
Il a le geste,
et on est en 1914.
Voilà.
Le vice-président du conseil municipal de Maison-Alfort savait jouer au football, en 1914.
On peut l'imaginer. Ouais. Moi, je le trouve un peu raide, hein, pour qu'on croie véritablement
mais quand
qu'il...
même, il a le geste du pied.
Il avait une expérience. Non, mais il y a...
Paul Dicci.
Il a les mains dans les poches.
Il a les mains dans les poches, en effet.
Non, ce qui est intéressant à propos de cette photo, si je peux préciser, c'est
allons-y.
Qu'on a eu, si vous me permettez l'expression, un mal de chien à la trouver.
Pourquoi donc?
Alors, eh bien, sans doute parce que les photojournalistes de l'époque n'estimaient pas nécessaire de couvrir cette dimension de la vie sportive qui était la présence des maires, des députés, des édiles au stade. Est-ce pour autant qu'ils n'étaient pas là? Sans doute pas. Mais c'est malgré tout le signe de quelque chose qui est encore embryonnaire, naissant, ce qui renvoie à l'idée que la formalisation même de la présence des politiques au stade, Paul pourrait en parler beaucoup mieux que moi, à la Coupe de France notamment, et à l'échelle de chacune des villes, est quelque chose qui est plutôt l'affaire de l'entre-deux-guerres.
Paul Dicci, vous êtes historien du football, entre autres historien du sport. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo, à la une de ce livre de Philippe Tétard?
Alors, d'abord la volonté peut-être de reconnaissance des milieux sportifs. Philippe a dit qu'un des joueurs avait l'air dépité, sans doute, peut-être, parce qu'il fait peut-être pas très chaud, donc il a envie de commencer à courir.
Oui, il est un peu froid, d'ailleurs.
Voilà. Et puis, il y a le décalage entre politiciens en haute forme et puis ces joueurs en maillot. Mais c'est d'abord cela. Hein. Les milieux sportifs, ils sont avides de reconnaissance de la part de l'État. Et le rêve des rugbymen et des footballeurs avant 14, c'est d'avoir enfin un président de la République qui vienne assister à leurs matchs internationaux. Ce qui n'est pas encore le cas, en revanche, le président peut être là à l'arrivée d'une course cycliste, mais surtout, il est là où les ministres sont là pour les fêtes de gymnastique ou de préparation militaire. Donc cette dimension au plus haut niveau de l'État, de cette prégnance de l'armée, du fait militaire, elle reste là avant 14.
Paul, il faut préciser, quand on dit gymnastique, c'est une gymnastique à l'ancienne, qui est donc une éducation quasiment militaire.
Oui.
C'est vraiment le soldat, c'est pas le sport, la gymnastique comme on le rendrait aujourd'hui. Alors,
même si elle est un petit peu en cours de transformation avant 14, mais c'est d'abord des démonstrations collective. Donc le gymnaste n'existe que parce qu'il fait partie d'un ensemble.
Et donc le ministre vient à des représentations de gymnastique parce que, évidemment, c'est le corps de la nation.
Oui,
donc c'est pas le football ou le rugby.
Tout à fait. Ces grandes fédérations, elles sont aussi subventionnées grâce notamment à la préparation militaire. Et donc c'est le ministère de la guerre qui les aide surtout.
Alors quand est-ce que le président de la République vient pour la première fois voir un match de football ou de rugby?
Alors, il y a un moment, Philippe va peut-être me contredire.
On va voir.
Mais en tout cas, le moment qui est retenu, où il commence à venir de manière régulière, c'est sous Gaston Doumergue. Mm-hmm. Et Gaston Doumergue, donc, à partir de 1927, inaugure cette
tradition
inventée, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui, que le fait que le président de la République vient, en général, soit à la finale de la Coupe de France, et aussi... souvent pour la finale du championnat de France de rugby, plus quelques matchs internationaux. Et parmi l'une des premières grandes images, c'est celle d'Albert Lebrun en 38, donnant la Coupe du Monde à Giuseppe Meazza, qui lui fait un salut fasciste. Donc, c'est pendant l'entre-deux-guerres. Mais il se peut que auparavant il y ait eu des signes avant-coureurs. Philippe Tétard.
Non, moi j'en vois pas. En revanche, dans un autre champ, mais qui prélude finalement à ça, le président de la République vient à l'hippodrome. Dès la fin du 19e, lors du Grand Prix de la République, les représentants de l'État se déplacent en nombre pour affirmer le souci qu'ils ont de ce spectacle sportif et de tous ceux qui sont réunis à l'occasion de ce spectacle. Ce qui nous inviterait à discuter de la question du souci politique qui va d'abord vers les élites et puis qui ensuite, au fil du temps, s'ouvre à une pratique, le football, qui est lui-même dans l'entre-deux-guerres en train de connaître sa popularisation au sens de sa consommation spectaculaire, de sa médiatisation, mais également de l'évolution du profil des joueurs. Mais là encore, je me tourne vers Maître Paul.
Paul, les bornes chronologiques de cette étude, c'est 1850-1914. En vérité, c'est plus orienté vers la Troisième République. Il y a un premier article sur le Second Empire avec ce Paris Cricket Club. Néanmoins, Paul, est-ce qu'on peut rappeler, on a commencé à faire ça en première partie de l'émission, mais sur cette avant-guerre, avant Première Guerre mondiale, qui pratique le sport? Est-ce que c'est encore une pratique bourgeoise ou est-ce qu'il y a une massification qui est amorcée de la pratique sportive comme phénomène culturel de la vie quotidienne?
Il y a nettement un début de massification, alors qui est attesté par les chiffres qui sont donnés par les grandes fédérations. C'est en général les chiffres ronds, ça arrange bien tout le monde. Oui. Mais on peut imaginer qu'il y ait entre 600 000 et 700 000 pratiquants, mais licenciés. Hein. Donc on met de côté tous les gens qui font du vélo pour leur plaisir ou qui tapent dans un ballon sans être dans un club. Donc il y a un début très net de massification qui se voit aussi par la multiplication des magasins d'articles de sport, la vente d'articles de sport dans les grands magasins. Vous avez une presse sportive qui est tout à fait pléthorique, beaucoup plus avant 14 qu'après. Donc il y a un vrai frémissement et on peut dire que c'est vers 1909-1910 où on voit quand même les effets de cette massification, même si souvent la documentation manque un petit peu. Mais il est clair que la guerre porte un coup d'arrêt à un vrai essor, un vrai décollage de la pratique sportive et du spectacle sportif en France.
Alors Philippe Tétard, en général, on pensait depuis 20 ans que effectivement il y avait une borne qui était les années 20 sur la mise en place des politiques municipales en France, les politiques sportives j'entends. C'est aussi un peu vrai, c'est là qu'on voit aussi surgir dans les professions de foi, dans les campagnes électorales de manière un peu plus évidente qu'avant-guerre. Néanmoins, vous prouvez le contraire également. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est le Front populaire qui va, d'une manière générale, uniformiser ces bribes de politique sportive au niveau de la nation? Est-ce que c'est le Front populaire qui prend ça en charge?
Non. C'est difficile de se prononcer parce que personne n'a encore véritablement défriché cette question jusqu'à présent. Et puis je crois qu'il ne faut pas faire de confusion entre ce qui se passe à l'échelle nationale et ce qui se passe à l'échelle municipale. Même si en 1936, Léo Lagrange répond très très clairement à...
C'est en ça que j'entends, parce que voilà. Revenons à Herriot deux secondes. Ça a été un des grands avocats de la cause sportive en France et il était un des premiers à réclamer un ministère des sports qui est peut-être le premier. Alors, c'est pas un ministère des sports, on verra Herzog plus tard, mais Lagrange porte quand même cet horizon.
Et il porte cet horizon, mais Lagrange, dans ce que je peux savoir de sa manière d'appréhender, de discourir, ne parle pas de la question des politiques municipales des sports. Si on en parle, c'est à l'échelle municipale. Par exemple, à Paris, la première fois que, d'après mes sondages, on parle de politique municipale du sport, c'est 21. Donc c'est bien avant que Lagrange prenne les rênes. Non, je pense pas que Léo Lagrange ait un rôle de moteur. Je pense surtout la chose suivante, c'est qu'il faut se replacer sous une Troisième République où l'homme politique, c'est le député-maire. Et que je pense que ça, les informations juste. Du remonter, enfin remonter nécessairement, c'est pas du conditionnel.
De la municipalité
que, voilà,
à l'Assemblée nationale.
Lagrange, comme d'autres, était conscient des limites de l'engagement de l'État.
Paul Dicci, ce que dit Philippe est intéressant, c'est que en fait, ce souci national de la politique du sport arrive de la base. En réalité, c'est que le député maire, en effet, qui est l'homme politique de la troisième, va peut-être porter jusqu'à un ministère ce désir de penser le sport en France.
Alors, je pense qu'on peut un petit peu nuancer. Au niveau de l'État, du gouvernement, le sport est déjà présent à l'issue de la Première Guerre mondiale, mais comme un outil diplomatique. Au sein du Quai d'Orsay, il y a une section sport et tourisme qui est créée dans l'organe de propagande, qui est le service des œuvres françaises à l'étranger, qui fonctionne pendant tout l'entre-deux-guerres pour renforcer la présence des dirigeants français dans les organismes internationaux, multiplier les échanges. Donc, cette idée-là, elle est déjà présente. Ensuite, il me semble que le lien entre, finalement, le gouvernement et les municipalités, il se fait par le financement. Hein, et le Front populaire, il dure très peu, mais il permet quand même de lancer un certain nombre d'équipements. À Besançon, nous avions un très beau stade Vélodrome qui s'appelait le stade Léo Lagrange, qui a commencé à être construit avec les crédits du Front populaire. Et ensuite, c'est la même démarche, par exemple, finalement sous De Gaulle, hein, puisque l'État va faire voter deux grandes lois programmes, mais qui servent à financer, à cofinancer les projets des municipalités. Donc en fait, c'est déjà des formes de cofinancement, et sous le Front populaire, donc l'argent du gouvernement, qui est pas très important, je crois que c'est un montant de 80 millions de francs, si j'ai bonne mémoire, alors que sous Vichy, c'est 1 milliard de francs, eh bien, ça vient aider finalement les municipalités. Donc il y a quand même cet aspect d'impulsion, hein, et surtout, on s'appuie sur municipalités, SFIO et radicales socialistes.
Philippe Tétard.
Oui, alors, ce qui témoigne de ça, c'est un exemple chiffré très simple, c'est que durant l'été 1936, Léo Lagrange lance un appel à projet auprès des municipalités. 6000 demandes remontent et il ne peut en satisfaire que 250. Ce qui est dire l'attente à l'échelle municipale et le fait que les municipalités sont sans doute plus avancées et plus inquiétées par la question des infrastructures sportives en particulier que ne l'est encore l'État, malgré ce que vient de dire Paul, qui est tout à fait juste.
Paul, vous avez évoqué le nom de Gaulle. La 5e République, c'est une sorte de sanctuarisation du sport. Tout d'un coup arrive Maurice Herzog, qui est donc le premier ministre des sports. Là, c'est encore autre chose. Vous évoquez la diplomatie. C'est vrai que la 5e va s'emparer du sport pour à la fois sans doute redorer l'image de la France, mais aussi pour porter l'image de la France au niveau de l'international. On était dans le local, on passe dans l'universel. De Gaulle s'empare du sport pour en faire un objet politique de rayonnement de la France.
C'est vrai, mais en fait, il reprend une politique qui a été très largement menée dans les années 1920. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Évidemment, bon, ça prend place dans un cadre nouveau qui est celui de la guerre froide et de ces joutes olympiques, finalement, où on a rang de puissance parce qu'on a un certain nombre de médailles. Donc là, c'est dans le cadre de cette politique, évidemment, étrangère, cette politique médiatique aussi, parce que c'est les premiers jeux télévisés, alors certes, il y a ce 36, mais surtout à partir de 1960 et 1964. Donc il y a une visibilité, évidemment, qui est,
une vitrine.
Qui est beaucoup plus forte. Mm-hmm. Hein. Et c'est vrai que c'est un aspect, finalement, de la politique de gaullienne, mais si on la réduit à cela, la politique gaullienne, c'est quand même celle qui permet de construire l'essentiel de nos infrastructures sportives aujourd'hui en France,
notamment collège, lycée, bien sûr.
Et puis c'est le moment où les Français apprennent à nager, parce que où on va avoir enfin des piscines. Donc il y a quand même un très gros effort qui est porté finalement vers
le local.
Pratique.
Oui, vers le local et le lycée, le collège et la piscine. On est en municipalité, on est sur le terrain et en mairie. Philippe Tétard, pour terminer, je sais que l'historien n'est pas là pour commenter le présent, il est là pour sonder, observer et travailler le passé. Néanmoins, en lisant votre livre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que cet objet qui est le vôtre, les politiques municipales, étaient terriblement d'actualité. Je me suis dit qu'en effet, dans beaucoup de municipalités en France, le sport reste un dernier moyen d'un lien entre une population et la République, notamment dans des municipalités où il y a des choses compliquées qui se passent. Le sport reste essentiel. Et je me suis dit, tiens, voilà un objet un siècle plus tard qui, du coup, a toute sa place aujourd'hui dans la France en 2020.
Oui, c'est tout à fait possible. Je ne m'aventurerai pas à avoir
l'historien,
un avis. Non, me trancher là-dessus.
Non, mais c'est normal, c'est normal.
Mais oui, en effet, je pense que c'est un des dossiers auxquels, si j'en crois ma propre expérience de citoyen, qui vit dans une commune dite la plus sportive des Pays de la Loire pour l'année 2019.
Quelle est cette commune ?
Coulaines, près du Mans.
Très bien.
Est une véritable gageure pour les élus et sans doute effectivement le moyen d'affirmer et de faire vibrer dans le discours le rôle de la République accompagnante, encadrante et qui permet de tirer vers le haut les citoyens, certainement.
En tout cas, je vous remercie d'être venus tous les deux ce soir. C'était passionnant. Je rappelle que vous pouvez lire donc Les Édiles au stade, aux origines des politiques sportives municipales 1850-1914, un livre d'histoire édité aux presses universitaires de Rennes. Merci Philippe Tétard. Et vous pouvez aussi lire tous les écrits de Paul Ditchy sur l'histoire du sport, des ouvrages de qualité, et notamment un des numéros d'une revue qui s'appelle Guerre mondiale et conflits contemporains consacrés au sport et à la guerre froide. C'est aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux, c'était parfait. Restez avec nous, on retrouve Pierre-Étienne Minonzio qui nous causera d'Yvette Horner et du Tour de France, juste après Anderson .Paak. You should have been downtown. The people are rising.
We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Set a civil unrest, but you sleep so sound. Like you don't hear the screams, don't be catching beat down. Staying quiet when they're killing niggas, but you speak loud. When we ride, got opinions coming from a place of privilege. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Won't you tell me about the looting? What's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now? Killed a man in broad day. Might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the South. Started in the North End, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies.
Two in downtown, where I got popped with the rubber bullet. Trey Brown got it in my name now. I'm a shooter.
Never understand why they do it. Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping. If you with it, then we lootin'. Help me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Hope, power, got the Trey Pound. Had to put them in my name. Wish a nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer. Matter of fact, I need two of them. Ooh, won't he do it? Won't he do it? Ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't loot the projects. About to hit Rodeo with my little cousin Marcus. Someone threw a whole brick in the Neiman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charger. You should've been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie.
Ooh-wee.
Lockdown, chanson signée Anderson .Paak. On continue en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, Plume de l'équipe, notre partenaire cette année et ce soir en cause vélo et accordéon. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, vous voulez encore nous parler du Tour de France, c'est bien ça?
Oui, la grande boucle est arrivée aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Alors j'avais déjà parlé ici même de cette course mythique il y a 3 semaines, à travers Kraftwerk, les pionniers allemands de la musique électronique, et leur single Tour de France. Alors, suite à cette chronique, j'ai reçu des milliers de lettres de protestation d'auditeurs qui disaient, je cite, « Mais c'est n'importe quoi votre truc, la musique de Kraftwerk, on n'y comprend rien !» Ces gens se moquent de notre Tour de France.
Des gens vous ont vraiment écrit ça?
Non, pas du tout. Néanmoins, je sens potentiellement monter à l'encontre de ma chronique une forme de colère populaire, à laquelle j'ai envie de répondre en clamant un nom, le nom d'une artiste qui était capable de faire chavirer n'importe quelle audience, Yvette Horner. Le morceau que l'on vient d'entendre s'appelle « Princesse accordéon ». C'est un épithète parfait pour désigner Yvette Horner, qui, de l'après-guerre jusqu'à son décès en 2018 à l'âge de 95 ans, a été l'ambassadrice du piano à bretelles et des bals musettes. On parle quand même d'une artiste qui a réalisé plus de 150 disques, qui se sont vendus en tout à 30 millions d'exemplaires.
Alors venons-en au Tour de France.
Eh bien, entre 1952 et 1964, Yvette Horner a participé à 11 reprises à la caravane publicitaire qui précède les coureurs pendant les étapes du Tour. Alors, il faut l'imaginer, elle était coiffée d'un sombrero, elle tenait un accordéon de 15 kilos, elle était harnachée sur une chaise fixée sur le toit d'une traction, et elle jouait pendant toute la journée pour égayer les spectateurs massés le long de la course. Et le soir, dans la ville où l'étape arrivait, eh bien, on posait Yvette sur une scène et elle remettait ça, parfois jusqu'à 2h du matin.
Elle devait être rincée, Yvette, non ?
Alors, complètement. Mais cette disponibilité pour le public explique pourquoi elle s'est si bien fondue dans le décor du Tour de France, comme le prouve l'archive que l'on va écouter. Il s'agit d'un extrait de la retransmission télévisée de l'arrivée à Aoste de la 18e étape du Tour de France 1959. Elle est commentée par un journaliste de la RTF basé à Paris, car la liaison avec les envoyés spéciaux a été coupée. Et clairement, ça rame sévère.
Eh bien, le ciel paraît un peu gris, le même ciel que nous avons ici à Paris. Je vois également une bise légère qui agite les arbres. Et je vois des spectateurs... Yvette Horner. Eh bien, voyons donc, le Tour de France n'est pas si loin puisqu'Yvette Horner est là. Puisque l'égérie du Tour de France, Yvette Horner est en train sur la piste d'Aoste de jouer un air que... La ligne, si elle n'était pas en panne, devrait nous traduire, devrait nous transmettre. Une piste vide, une piste déserte, une piste sur laquelle tout à l'heure...
Alors, vous l'avez entendu, on parle ici de l'égérie du Tour de France.
Eh oui.
Yvette Horner était devenue proche de champions, comme Jacques Anquetil ou Louison Bobet, et elle incarnait littéralement le Tour, tout au moins sa dimension populaire, puisqu'elle offrait un spectacle gratuit et réjouissant. Elle a donc servi l'image de la Grande Boucle, qui, en retour, lui a beaucoup offert. Parce que Yvette Horner a souvent répété que sa grande popularité s'était forgée lors de ses périples estivaux.
Alors, pourquoi s'est-elle arrêtée de participer à la caravane après 64?
En fait, elle n'en pouvait plus.
Épuisée.
Oui, en gros, elle terminait les étapes, elle avait le visage rouge comme une pivoine, à force de jouer de l'accordéon en plein air. Et du jour où elle a mis de la crème pour protéger sa peau, elle avait en plus la tête garnie de moucherons.
Bref, Yvette Horner.
Voilà. Elle a arrêté le Tour de France, mais avant de quitter la course, elle lui a offert une chanson à sa gloire intitulée « Mon Tour de France ». Alors, ce qui est frappant quand on écoute ce morceau, c'est la nostalgie qui en découle. La nostalgie qui, on l'a déjà dit, est la clé de compréhension de la fascination qu'exerce le Tour de France. Alors, au petit jeu de « c'était mieux avant », beaucoup d'amateurs de cette épreuve considèrent que son âge d'or remonte justement au début des années 60, quand la foule passionnée, sur les bords de la route, se divisait entre les amoureux d'Anquetil et les pro-poulies d'or. Alors, à titre personnel, j'aime à penser que les débats enflammés entre ces deux camps s'interrompaient quand... En amont du peloton, résonnaient au loin les airs enjoués, interprétés par Princesse Accordéon.
Princesse Accordéon, Yvette Horner, 1922-2018, l'égérie populaire du Tour de France. Merci Pierre-Étienne, à la semaine prochaine.
À dimanche prochain.
Ouais, salut. Et voilà, cette quatrième émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, l'inépuisable Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Florent Bujon et de Jérémy Guillon. Merci à eux deux. Merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter, bien sûr, avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'une immense championne de tennis des années 30. Elle compte 2 victoires à Roland-Garros, devenue résistante à l'occupation nazie dès 1940. Vie et destin de Simone Mathieu, une grande figure sportive de la France libre. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.